Prenons place, frères et sœurs, pour entendre le début du livre de Jonas. Il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de vous faire entendre Jonas pour faire écho à ce thème de la jalousie qui est extrêmement prégnant dans ce livre, celui de la rivalité. Et j'aimerais aujourd'hui vous faire entendre un autre thème, le thème de la peur. Voici donc les premiers versets de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et appelle sur elle. C'est souvent traduit par « crie contre elle », mais le verbe « kara » est aussi celui qui permet de désigner la vocation. Dieu appelle Moïse dans le livre du Lévitique, donc « appeler » plutôt que « crier ». Pourquoi ? Parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et descendit pour aller avec les gens à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. L'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Jonas descendit dans le fond du bateau. Il se coucha et s'endormit profondément. Le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu se modérera à notre égard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Explique-nous ce qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte, au sens d'un respect profond, et lui dirent, « Qu'as-tu fait là ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait expliqué. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent, parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Éternel, nous t'en prions. » Que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent, car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et toutes tes flots ont passé sur moi, et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à l'âme, l'abîme m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive. » Et fais-y la proclamation que je te dis. Alors, Jonas se leva. Il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Frères et sœurs, prenons notre psautier français, à la fin duquel nous trouverons ce choral 45 dans le petit livret qui a été ajouté, le livret blanc. Au choral 45, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter. Éternel notre Dieu, toi qui par ton esprit assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chers frères et sœurs, les passages d'année ne sont pas toujours l'occasion de célébrations très festives. J'espère que ce sera le cas pour chacun d'entre nous, mais il arrive qu'affronter une nouvelle année, c'est affronter des angoisses supplémentaires. Parce que le passage de l'an nous rappelle, si cela est nécessaire, qu'il y a devant nous un avenir et que cet avenir réserve parfois bien des imprévus. Disons que lorsque notre présent n'est pas fabuleux, lorsque nous sommes déjà dans un présent assez traumatisant comme cela, nous nous demandons plutôt de quelle manière nous allons nous faire dévorer par la suite. Et si nous n'avons pas une sorte de gourmandise de la vie, eh bien nous avons tout lieu de craindre ce qui risque de nous arriver, et le passage de l'année est une étape qui marque cela. Encore d'autres fléaux qui risquent de nous arriver. Nous ne savons rien du présent de Jonas. En revanche, nous constatons qu'il refuse l'avenir que lui indique l'Éternel. Il va fuir non seulement la vocation que lui propose l'Éternel, et c'est la raison pour laquelle j'insistais sur la traduction du verbe kara, où Jonas est appelé à être l'instrument de l'appel de Dieu, mais il va fuir aussi le face-à-face avec le monde, avec Ninive, qui est alors la capitale du royaume assyrien. En fuyant la face de l'Éternel, Jonas fuit ce qui advient, puisque l'Éternel, c'est ce mot hébreu construit sur la racine du verbe « aya » qui signifie « advenir ». L'Éternel, c'est ce qui fait advenir. Refuser le face-à-face avec l'Éternel, c'est refuser le face-à-face avec ce qui advient. C'est, en ce qui concerne Jonas, tourner résolument le dos à son avenir. C'est là qu'intervient la question de la peur. Jonas a manifestement peur de ce qui risque d'arriver. Que faire de la peur ? L'honnêteté nous impose de dire que la peur est utile. Elle est un symptôme utile. La peur nous alerte. Elle nous alerte, elle nous rend plus vigilants et elle nous évite de nous mettre inconsciemment en danger. Mais, comme toute chose, si nous en abusons, cela devient problématique. Et lorsque la peur devient notre maître, lorsque la peur prend le contrôle de notre vie, alors nous sommes comme tétanisés dans notre existence. Et il y a quelques paraboles qui disent cela, notamment la parabole des talents. Lorsque nous sommes guidés par la peur, nous faisons le contraire de ce que nous devrions faire. Et bien là, c'est pareil pour Jonas. Jonas, animé par la peur, fait le contraire de ce qu'il devrait faire. Au lieu d'aller de l'avant, il retourne en arrière. Nous allons voir que retourner en arrière n'est pas si dramatique que cela. Mais il n'est pas dans le bon sens. La peur doit être un compagnon qui veille avec nous sur les risques possibles, mais la peur ne doit pas régler notre vie quotidienne. La question est donc, comment désapprendre la peur ? Et comment neutraliser l'angoisse qui provoque la peur ? Alors, je ne voudrais pas faire de trop grandes promesses en vous assurant que vous sortirez d'ici en étant libéré de toute forme d'angoisse et donc tranquille vis-à-vis de toute forme de peur. Mais je crois que l'école de Jonas peut nous aider à progresser dans cette dimension-là. Le récit de Jonas ressemble à une chute libre. Il semble tomber de Charybde dans Scylla. C'est le scénario classique de ceux qui sont saisis par l'angoisse, totalement saisis par l'angoisse, qui sont menés par la peur et qui vont de mal en pis. C'est la chute libre, comme en vivent la plupart des personnes qui soignent leur angoisse à grand renfort d'addiction. Addiction à des produits ou à des comportements qui ont servi à un moment à calmer les angoisses et puis qui ont finalement pris toute la place. Et le récit de Jonas me fait penser à l'un des récits de personnes alcooliques que l'on trouve dans le gros livre des alcooliques anonymes. C'est le récit d'un habitant du sud des États-Unis. Il raconte qu'aux alentours de Noël, sa nouvelle femme était partie avec toutes ses affaires et les meubles. Le propriétaire n'avait pas tardé à le chasser de l'appartement vide, après quoi il avait perdu son emploi. Voilà un scénario qui a tout de la chute libre aussi, l'enchaînement inexorable des malheurs. Le cercle vicieux. Pour autant, si nous reprenons le récit de Jonas, ce n'est pas de chute dont il est question. Le texte hébreu n'utilise pas le verbe nafal, chuter ou tomber. Il utilise à plusieurs reprises le verbe yarad, descendre. Et la différence est de taille. La chute est subie, alors que la descente est voulue. Disons que la descente est un choix. Jonas va vers le bas, il descend à Jaffa, il descend dans le bateau, il descend dans la cale du bateau, il descendra finalement dans le ventre du poisson, même si le verbe n'est pas utilisé pour le passage dans le ventre du poisson. Mais Jonas va vers le bas et ce bas a du sens. À première vue, Jonas subit le déroulement de son histoire. Mais le rédacteur nous dit autre chose, Jonas ne subit pas en fait. Il y a du sens dans son aventure. Quel est le sens de ces descentes successives jusque dans le ventre du poisson ? Eh bien, je ferai référence à l'approche que le psychanalyste Bruno Bettelheim fait des contes de fées. Pour nous aider à comprendre ce qui se joue dans cette scène clairement conçue à la manière d'un conte, qui nous offre le matériel nécessaire pour comprendre comment nous pouvons nous débrouiller dans la vie. Et je reprends l'analyse de Bruno Bettelheim au sujet du conte « Les trois plumes ». Il est question de trois fils, parmi lesquels Simplet, qui, vous le comprenez bien, est jugé pour être simple d'esprit. Eh bien, c'est Simplet, le simple d'esprit, qui va réussir sa mission contre toute attente, mieux que ses deux autres frères, réputés pourtant intelligents et instruits. Sa réussite vient du fait qu'il découvre une trappe qui donne sur un escalier dont il descend les marches, sous terre, jusqu'à rencontrer le monde animal sous la forme d'une grenouille. Une grenouille qui lui donnera ce dont il a besoin pour gagner l'épreuve. Le fait qu'il descende les marches d'un escalier et qu'il arrive sur une grenouille qui lui donne ce qu'il lui faut, ça vous fait sourire. Mais vous n'avez pas souri quand Jonas est entré dans le poisson. Et en fait, nous sommes dans les archétypes semblables. Ce que Bettelheim suggère, c'est qu'en rejoignant ce monde animal, Simplet a rejoint sa nature animale. Il a rejoint son inconscient, pour le dire avec les termes de la psychanalyse. Ce qui est particulièrement utile pour relever le défi qui se présente à lui. Au lieu de s'en tenir à sa seule instance intellectuelle consciente, au lieu d'en rester à la surface des choses comme vont le faire ses deux autres frères, Simplet va au plus profond de son psychisme pour exploiter son inconscient, son animalité, ce qui va lui permettre de prendre le dessus. Eh bien, la descente de Jonas me semble relever d'une telle démarche qui explore le psychisme pour trouver le matériel nécessaire pour faire face au monde, pour faire face à l'avenir. D'étape en étape, Jonas descend au plus profond du monde jusqu'à rejoindre sa propre vérité et s'en nourrir. Cependant, je note que ce n'est pas l'animalité brute que Jonas rejoint. Et c'est peut-être une différence à noter entre la perspective biblique et la perspective freudienne portée par Bettelheim. Jonas ne rejoint pas seulement son animalité figurée par le poisson. Jonas, en se mettant à prier, rejoint également le divin. Alors avant d'interpréter un peu plus ce moment dans le ventre du poisson, interrogeons-nous sur le choix du poisson qui joue dans ce passage un rôle encore inédit dans la Bible. Les poissons sont des animaux que l'on rencontre dès le premier récit de la création, dans le livre de la Genèse. Ce sont des animaux qui ont ensuite un destin particulier lors du déluge, puisqu'ils seront évidemment épargnés par la montée des eaux. Les poissons constituent donc l'espèce témoin du déluge, le déluge qui est la manière de gérer la méchanceté, c'est le même terme hébreu, ra, qui est utilisé et dans Jonas et dans le livre de la Genèse, et donc les témoins du mal surmonté sur le plan symbolique. Les poissons sont utilisés dans les textes bibliques comme les éléments symboliques pour rendre compte du mal surmonté sur le plan symbolique. Il sera à nouveau question des poissons dans les évangiles lorsque les disciples pêcheurs près du lac de Galilée seront appelés à être pêcheurs d'hommes. Il sera aussi question de poissons durant les parties de pêche nombreuses dans les évangiles. Et puis il y a un épisode assez intéressant, énigmatique un peu, c'est celui où une pièce doit être trouvée dans un poisson. Il y a dans cette utilisation des poissons dans les évangiles une sorte d'emboîtement. La pièce est dans le poisson qui va être finalement dans le ventre du pêcheur. Et puis le poisson, c'est ce qui est pêché par l'homme qui doit être pêché par l'homme. Il y a une sorte d'emboîtement, une sorte de construction gigogne, une sorte de dynamique d'avalement. Eh bien, les poissons donnent donc à penser sur deux plans, celui du mal surmonté et celui de l'emboîtement, l'avaleur avalé. L'avaleur avalé sera d'ailleurs un thème particulièrement important dans la suite des évangiles, puisque le poisson chrétien, ictus c'est à la fois ce qui désigne le poisson en grec et le nom qui sera donné à Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, sont les initiales du mot qui forme ictus, eh bien, est destiné à être avalé par ses disciples de façon institutionnalisée, c'est la scène. Et pourquoi Jésus institue la scène ? À quel moment ? C'est au moment où il doit faire face à la méchanceté, dont le jugement et la croix sont les symboles. Et donc, cette logique de l'avalement est aussi utilisée par Jésus au moment de faire face à la méchanceté. Donc, en rejoignant le poisson, Jonas rejoint effectivement ce qui va lui être nécessaire pour faire face à la méchanceté, et donc faire face à l'avenir. Et Jésus ajoute qu'il ne sera pas donné d'autre signe que celui-là. Revenons à l'épisode. Jonas est dans le poisson. Alors je ne vais pas épiloguer pour savoir s'il est vraiment dans le poisson ou pas. Mais on peut quand même se dire que Jonas descend dans la cale du bateau, il s'endort. Il ne serait pas impossible qu'il se mette à rêver et que la suite soit dans l'ordre onirique. Le rêve qui permet de réintégrer les éléments qui constituent la vie, les rassembler pour y découvrir une vérité qui jusque-là, sur le plan conscient, nous échappait. Jonas se met à prier. Cela signifie qu'il ne se considère pas comme un être seul, isolé. Le fait de prier, c'est de considérer qu'il y a un autre que soi. Cela signifie que Jonas n'est pas seul avec son animalité. Il se tient face à l'Éternel, dont il avait pourtant cherché à s'éloigner à tout prix. Il se tient face à un tiers qui symbolise tous les autres tiers, qui symbolise d'autres que lui, Ninivite inclus. Cela montre que la descente de Jonas a été un travail personnel utile, mais qui n'a pas été accompli dans la solitude. En indiquant la part que Dieu prend dans les épisodes de l'histoire de Jonas, le rédacteur indique, me semble-t-il, la présence nécessaire du tiers dans ce travail personnel. Alors que Jonas aurait pu arrêter son travail en profondeur en cours de route, au moment où il met les pieds sur le bateau, par exemple, eh bien, Dieu désigne cette puissance de vie qui s'efforce inlassablement de nous aider à aller un peu plus loin, à dépasser nos limites naturelles, et à nous rendre capables de franchir quelques barrières qui bloquent notre histoire. Cette puissance de vie qui nous permet de trouver les ressources nécessaires pour faire face à la vie. Dieu fait souffler un vent, ce qui n'est pas autre chose que la ruah, c'est-à-dire l'esprit. C'est-à-dire ce qui porte l'homme jusqu'à son point d'accomplissement, son humanité véritable. Et Jonas, s'il peut prier Dieu, c'est parce que sa longue descente, ses descentes successives, lui ont permis d'être confronté à l'humanité, depuis le prochain le plus éloigné, le Ninivite, qu'on ne voit pas, qu'on subodore, jusqu'au compagnon d'infortune avec lequel on partage la même galère. En quelque sorte, ce texte nous dit que l'Éternel a provoqué une communauté de destin, communauté capable de faire accéder Jonas à une autre dimension de sa vie. Et d'ailleurs, c'est cette communauté qui encourage Jonas à faire son travail personnel de relecture, d'introspection, pour mieux se découvrir. Et finalement, faire une confession de foi qui est aussi une confession de sa propre identité. Oui, je suis hébreu, je confesse l'Éternel. Cette mise en mots de son identité profonde est provoquée par ce tiers. Voilà pourquoi ce qui pourrait apparaître comme une chute libre est en fait une descente. Et donc, comme je disais, quelque chose d'orienté, quelque chose qui a du sens. À chaque étape, à chaque palier, le tissu humain se resserre, le visage de l'autre se fait plus sensible, plus proche. Et l'autre devient plus réel, moins fantasmé. Et dès lors, l'autre cesse d'être menaçant, du moins aussi menaçant qu'on le craignait. Et au bout de ces descentes, Jonas ne va pas se contenter d'un face-à-face avec lui-même, avec sa nature primale. Il va aussi s'ouvrir à l'universel, c'est le sens de la prière, prière qu'il adresse à l'Éternel. Son animalité n'est donc pas la seule chose qui va lui permettre de remonter à la surface et de faire ensuite face aux événements qui vont lui arriver. En se tenant face à Dieu, Jonas reconnaît qu'il tire son existence d'un autre que lui-même. Il reconnaît le besoin de l'autre. L'autre cesse d'être une menace pour être une grâce possible. Il reconnaît la part que l'autre prend dans la construction personnelle. Jonas reconnaît le réseau d'interaction qui le relie aux autres. Je reviens à mon sudiste, celui qui avait vécu sa chute libre aux alentours de Noël. L'histoire ne s'était pas arrêtée là. Allant de mal en pis, il déclare que finalement il a touché le fond au point où il est retourné chez sa mère. Il est retourné dans le ventre maternel. Et ce faisant, il dit qu'il est allé jusqu'au bout de lui-même, au bout de ses résistances, au bout de ses possibilités. Il est retourné dormir chez sa mère qui a averti un ami, un certain Jackie, qui lui a rendu visite le soir. Il raconte qu'il ne se souvient plus très bien ce qu'ils se sont racontés, mais peu importe, dit-il. Car ce qui a compté, c'est qu'il y avait devant moi un homme, tout comme moi, avec le même type de trajectoire chaotique, avec les mêmes déconvenues. Eh bien, Jonas, quant à lui, sait qu'il ne s'en sortira pas seul, au même titre que la personne alcoolique entamera sa remontée lorsqu'il reconnaîtra qu'il ne peut pas s'en sortir seul. La pratique des alcooliques anonymes, d'ailleurs, intègre cette altérité dans la référence à une puissance extérieure à soi, qui intervient dans l'amélioration de la situation. Cette altérité est ensuite incarnée par le groupe ou par le parrain. Les deux, d'ailleurs, ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Une altérité qui ne laisse pas la personne seule avec son angoisse, seule avec son animalité. Il y a dans ce récit de Jonas peut-être une source d'inspiration à ce poème de Victor Hugo qui concerne Caïn. Caïn qui est en quelque sorte poursuivi par le fameux œil, sa conscience, ce tiers. Jusque dans la tombe, l'œil était là et regardait Caïn. On peut prendre ça comme quelque chose d'absolument terrifiant, une menace. On peut prendre cela comme une grâce, le fait d'être accompagné jusqu'au bout de notre chute. Et c'est cet accompagnement qui transforme, qui métamorphose notre chute en descente et qui autorise la remontée. Je dirais que Jonas, dans ces versets-là, est un conte biblique qui parle à notre peur de l'avenir pour nous révéler que nous sommes vraiment en mesure de pouvoir surmonter cette peur. Et la grâce qui nous est faite, c'est de pouvoir transformer notre réalité en nous faisant aimer la vie quotidienne, en quelque sorte, en portant un autre regard sur notre environnement. La grâce qui nous est faite, c'est de redonner de la valeur à cette part de notre personnalité si souvent enfouie et si peu exploitée, qui permet de transformer nos actions en œuvres. Je dirais que c'est en allant au bout de son angoisse, en traversant son désordre intérieur de part en part sous les impulsions du divin, qui ne le laisse pas s'arrêter à mi-chemin, mais qui le stimule pour qu'il aille jusqu'au bout de son désordre intérieur, que Jonas se réconcilie avec son intimité, qu'il se retrouve, qu'il se réapproprie sa personnalité et qu'il peut à nouveau faire face au monde, qu'il peut affronter la vie en étant désormais guidé par cette parole de l'Éternel, puisqu'il se lève et va agir selon la parole de l'Éternel, nous dit le verset 3 du troisième chapitre. Une parole qui ouvre un avenir débarrassé, purifié, pour le dire en termes religieux, de la méchanceté, un avenir purifié du mal, un avenir purifié du malheur. Amen.